On place à la revue de presse africaine avec vous, Mehdi Medeb, et à la une, le Soudan. Le Premier ministre de retour à son poste après un accord avec les putschistes.
Que peut encore Hamdok, se demande aussitôt aujourd'hui au Faso, qui relate la mise en scène de cette remise en selle d'Abdallah Hamdok. L'un à la suite de l'autre, l'ancien chef de l'exécutif et son tombeur, Abdel Fattah al-Burhan, se sont ensemble engagés à remettre le Soudan sur les rails. Le sang soudanais précieux, arrêtons les fusions de sang. Voilà comment s'est justifié Abdallah Hamdok, précise Al Jazeera lors de la cérémonie de signature, remise en selle. Mais va-t-il pour autant galoper vers un pouvoir civil, s'interroge de son côté l'observateur Palga. Le journal sceptique quant aux chances de succès d'Abdallah Hamdok. On peut compter sur la bonne volonté de ses partenaires en kaki pour lui mettre des bâtons dans les roues. Au final, Hamdok se fait harakiri, prédit aujourd'hui au Faso, car pour les contestataires, cet accord sonne comme un deal. Il annihile les espoirs d'un renouveau démocratique dans ce pays dirigé d'une main de fer pendant 3 décennies par Omar el-Béchir et ses comparses. Hamdok a vendu la révolution, clamaient d'ailleurs les manifestants après l'annonce de l'accord, raconte encore le site Al Jazeera. L'association des professionnels soudanais l'a qualifié de traître. Il nous a déçus. Notre seule option, c'est la rue, témoigne un manifestant. L'accord n'a pas signé le coup d'arrêt. Loin de là, des cortèges, pas de négociation, pas de partenariat, pas de marchandises, poursuit Soudan Tribune dans les appels à manifester qui ont fleuri encore dans la rue. Et d'ailleurs, les velléités d'Hamdok de mettre fin à l'effusion de sang n'ont rien pu faire ce dimanche encore, puisqu'un adolescent a été tué dans de nouvelles manifestations. Mais il n'empêche, pour The Nation au Kenya, les dirigeants soudanais devraient saisir cette opportunité de l'accord pour sécuriser leur propre pays et achever la transition vers un régime civil à part entière.
Et ce matin, Mehdi, les journaux évoque également le convoi militaire de la discorde au Burkina Faso.
Couché à l'entrée de la ville de Kaya, des jeunes blocs des poids lourds du convoi de Barkhane en route pour le Niger, parti de Côte d'Ivoire, raconte aujourd'hui au Faso. Malgré les négociations, les bloqueurs n'ont rien voulu entendre. Ils ont obligé les militaires français à rebrousser chemin. Le piège burkinabé s'est refermé sur le convoi militaire, souligne l'observateur. Voilà où nous en sommes, poursuit le journal burkinabé. Dernier événement d'une semaine folle après l'attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata dans le Soum qui a fait 53 morts, puis de manifestations de colère au Burkina, la déflagration d'Inata au-delà de l'entendement pour l'observateur. Face à tous ces événements majeurs, note le pays, le président Kabore fait profil bas, se contentant d'appels au patriotisme usé jusqu'à la corde. Et là encore, le titre burkinabé se demande, n'y a-t-il pas plus urgent à faire? Où se trouve l'autorité pour empêcher que ce piège qui se referme sur des véhicules destinés à un autre pays ne deviennent un traquenard pour le Burkina entier, s'interroge lui aussi Wakat Serra. Il est temps que le président du Faso mette un terme à cette dictature du petit nombre pour qui le malheur du Burkina, c'est l'ancien régime ou c'est la France.
Enfin, en Afrique du Sud, la presse s'empare de nos révélations, de celles du consortium de journalistes et de la société civile Congo Hold Up.
Oui, le Daily Maverick part sur les traces des biens du frère adoptif de Joseph Kabila, au moins 2 400 000 dollars utilisés pour acheter des propriétés à Johannesburg, rappelle le journal sud-africain. Il publie des photos des résidences achetées par Garveli, la société sud-africaine de Selemani, via Sud Oil en RDC. C'est le Sud Oil qui est au cœur du système tentaculaire qui a détourné au moins 138 millions de dollars. Le Daily Maverick y parvient à pister ses fonds. Il a acheté 6 de ses propriétés en une seule journée dans le pays. Il en a 13 au total, dit encore le journal sud-africain. Comment cette société a reçu et détourné des fonds de la Banque centrale du Congo, de la mission permanente de RDC auprès des Nations Unies ou encore de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. C'est une étude de cas sur le blanchiment d'argent, conclut le journal sud-africain.
Mehdi Medeb, merci à vous. Vos revues de presse à retrouver à tout instant sur RFI.fr et sur notre application Pure Radio.